20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons des nouvelles technologies chirurgicales dans l'atome de savoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
Nous sommes le 7 février 2001. Une femme de 68 ans attend son opération de la vésicule biliaire au CHU de Strasbourg. En temps normal, ce n'est pas l'opération la plus périlleuse, mais l'ambiance est tendue. Il s'agit en fait d'un projet qui a nécessité 8 ans de préparation, nom de code Opération Lindbergh, comme celui qui a traversé l'Atlantique en avion en 1927. En effet, aujourd'hui, le chirurgien n'est pas dans la salle d'opération au CHU de Strasbourg, mais à plus de 7000 km de là, à New York. C'est grâce au robot Zeus et à la fibre optique déployée par France Télécom que le professeur Jacques Maresco a réalisé la première opération chirurgicale à distance de l'histoire, drôle de façon de télétravailler. Une prouesse qui marque le début d'une nouvelle ère au bloc opératoire, investi de plus en plus par des robots à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, les recherches dans ce domaine se poursuivent et ont même de beaux jours devant elles. C'est le sujet de ce soir dans l'Atome de Savoir. Et pour en discuter, nous recevons Patrick Pessot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de service de chirurgie digestive au CHU de Strasbourg, justement, et président de l'Association française de chirurgie. Je vous présente mes camarades pour cette émission. Tout à l'heure, Jade prendra le pouls de la sphère scientifique. Et en fin d'émission, Simon nous parlera de philosophie des sciences. Mais tout de suite, je vous propose de faire un point sur ce qu'il se fait aujourd'hui au bloc opératoire. Bonsoir Simon.
Bonsoir Gaspard. L'une des intrigues majeures de la dernière saison de la série Downton Abbey, c'est la question de la modernisation de l'hôpital de région. Et on a des personnages qui s'y opposent. Ils sont contre l'introduction de nouvelles machines, de nouveaux équipements, qui pourtant pourraient bien souvent sauver la vie de beaucoup plus de gens. Et en fait, la question, la grande question qu'ils posent, ces personnages qui refusent la modernisation, c'est jusqu'où va-t-on aller comme ça? Jusqu'où peut-on aller? Et cette question, elle a traversé le XXe siècle et puis le XXIe siècle dans le domaine médical. En effet, les technologies sont devenues monnaie courante. Respirateurs, radiologie, électrocardiogramme et j'en passe, ce sont devenus des outils quotidiens évidents à utiliser le plus souvent possible. Or, depuis quelques années, un nouveau chamboulement s'opère. Il ne s'agit plus seulement d'utiliser des technologies, de nouveaux équipements, de nouvelles machines pour accompagner les médecins et les chirurgiens. De plus en plus, on utilise des technologies au sein même du bloc opératoire. Et cela est dû en grande partie à la miniaturisation des technologies, un phénomène qui est encore en plein essor et qu'on voit à peu près partout. Cette miniaturisation, ainsi que tous les progrès faits dans l'imagerie, dans la robotique, dans les équipements, tout cela entraîne une nouvelle manière de penser le bloc opératoire et l'intervention chirurgicale. C'est bien des choses qui sont amenées à changer, à commencer par la formation des chirurgiens même, mais aussi les salles dans lesquelles ils opèrent, qui doivent s'adapter aux nouvelles technologies. Et c'est dans cette veine que des initiatives se sont multipliées un peu partout, sur les territoires français notamment. Par exemple, la chaire innovation BOPA, bloc opératoire augmenté, qui vient d'un partenariat entre l'APHP et l'Institut Mines Télécom. L'idée de la chaire BOPA, c'est d'accélérer le développement du numérique dans le bloc opératoire et donc ultimement de changer l'acte chirurgical. Une des voies majeures pour faire ce changement, c'est l'augmentation des sens des différents acteurs du bloc, le toucher, la vision et puis la parole. Ces technologies vont permettre d'augmenter le champ d'action du chirurgien tout en peaufinant la précision de son geste, ce qui doit entraîner une réduction du risque d'erreur médicale. Une autre initiative qui a été lancée dans le domaine de la médecine 2.0, c'est la formation de l'équipe Agathe, qui vise à développer des dispositifs robotisés d'assistance aux gestes chirurgicaux. L'intérêt de ça, c'est que ça va pouvoir s'appliquer à beaucoup de champs dans le domaine de la santé. Par exemple, la chirurgie mini-invasive, l'apprentissage, donc la formation des gestes médicaux, l'aide à la marche et à la stabilité de la posture. Bref, énormément de domaines sont couverts par ces nouveaux dispositifs. C'est ainsi toute la médecine qui est amenée à se repenser, à repenser son dispositif de formation, mais aussi son usage des nouvelles technologies, en médecine en général, dans le bloc opératoire en particulier, et puis repenser le rapport au grand public, les explications qui seront données de ces nouveaux usages technologiques au sein du bloc opératoire. Si bien qu'à la fin, on peut se demander très concrètement à quoi ressemblera le bloc opératoire de demain.
Vous écoutez l'Atome de Savoir et ce soir nous recevons Patrick Pessot, président de l'Association française de chirurgie. Merci d'être là avec nous sur Radio Campus Paris. Dans un premier temps, quels sont les acteurs du futur bloc opératoire? Alors évidemment, il y a des chirurgiens, des infirmières, mais est-ce qu'il va y avoir également des ingénieurs, des techniciens?
Alors, je pense que réellement, le bloc opératoire actuel est en pleine mutation. Mutation pas parce que les interventions, de nouvelles interventions arrivent, mais de nouvelles façons d'opérer arrivent, et donc comme on modifie nos pratiques, eh bien il faut aussi modifier les compétences des gens. Donc les gens qui sont aujourd'hui au bloc opératoire resteront, hein. En effet, vous avez cité les chirurgiens, les infirmières de bloc opératoire, les anesthésistes, mais il va falloir, avant de penser à de nouveaux métiers, penser également à de nouvelles compétences de ce personnel médical, et probablement en raison d'une nouvelle technicité, de technologie qui rentre au bloc opératoire, imaginer de nouveaux assistants. L'infirmière de bloc opératoire est une assistante chirurgicale du chirurgien, mais toutes ces nouvelles technologies nécessiteront probablement dans l'avenir un assistant technicien pour aider sur le déroulé des futures opérations. Donc aujourd'hui, on a des ingénieurs biomédicaux qui sont là un peu pour dépanner s'il y a besoin sur ces nouvelles technologies. Mais vu l'émergence de ces technologies au bloc opératoire, il y aura probablement nécessité d'un personnel à temps plein pendant l'intervention d'assistance. Voilà. Donc je ne sais pas si ça sera si des nouvelles compétences, nouveaux métiers, alors un ingénieur, un bio-ingénieur, je ne sais pas, un biotechnicien, je ne sais pas comment on l'appellera, mais un assistant capable d'aider sur l'utilisation de ces technologies numériques, informatiques, qui rentrent au bloc opératoire.
Alors bon, l'ancien personnel reste, mais ce nouveau personnel, il va falloir le former. Comment on compte former ces nouveaux acteurs?
Alors, je reviens sur, d'une part, je pense qu'il y a un gros travail à faire actuellement sur la montée de compétences du personnel existant. Voilà, nos infirmières ne sont pas aujourd'hui formés, ni les médecins, au numérique, à l'informatique, au data science. Donc tout ça, il va falloir que l'on ait au moins un minimum de connaissances. Donc il y a un gros enjeu de formation médicale continue sur ce personnel-là. Les nouvelles générations, eh bien, ça va rentrer dans leur formation initiale. Et puis ces nouveaux métiers, si on en a vraiment besoin le contour, viendront plus du monde justement des technologies, du scientifique, de la data science. Et donc il va falloir que l'on les immerge à notre monde médical avec des parcours communs parallèles pour pouvoir comprendre ce qu'est le bloc opératoire. Et l'utilisation de nouvelles technologies. Hein. Aujourd'hui, c'est pareil, la formation se fait beaucoup et de plus en plus en dehors du bloc opératoire. Donc, je pense que toutes ces modes de formation feront appel à la réalité virtuelle, des blocs opératoires virtuels où on pourra justement mettre les différents acteurs qui viennent de mondes différents en commun pour travailler ensemble et apprendre à travailler ensemble. En dehors d'un bloc opératoire réel.
et la numérisation, voire la virtualisation peut-être à terme du bloc opératoire, quel impact ça va avoir, quel changement ça va avoir pour le patient ? Comment on compte l'habituer à ces nouvelles technologies et peut-être même lui donner confiance en un robot ?
Alors, en effet, quand on parle nouvelles technologies, on pense tout de suite à la robotisation. On y reviendra peut-être plus tard et du coup, dans l'esprit, des gestes qui se feront de façon automatique, plus sous contrôle complet du chirurgien. Mais c'est pas que ça, les nouvelles technologies. Hein. C'est pas, il n'y a pas que le robot qui rentre dans nos blocs opératoires. Alors, le rapport que l'on a avec les patients a aussi, lui, été modifié. C'est-à-dire que le terme même de patient, c'était un terme d'une personne passive qui prenait de la science et du savoir du médecin. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une médecine participative avec des décisions partagées, avec une prise active du parcours de soins par le malade. Et donc, les consultations aujourd'hui ne sont plus juste « on va vous faire ça comme ça », mais un discours et un échange et un partage. Donc aujourd'hui, on rentre dans cette dimension de partage du parcours de soins avec le patient. Et donc, en effet, les nouvelles technologies ne sont là que au service du patient pour lui apporter une meilleure prise en charge, une optimisation de la prise en charge. Et donc, eh bien, il faut expliquer qu'entre telle voie d'abord, telle utilisation, tel matériel, eh bien, on peut avoir tel bénéfice, mais peut-être quelques inconvénients. Voilà. Et c'est tous ces discours participatifs avec le patient que l'on a qui permet de choisir une procédure avec une technologie. Et donc, ça nécessite aussi d'avoir de nouveaux indicateurs d'évaluation des parcours pour pouvoir être beaucoup plus fin, j'allais dire, dans nos informations que l'on donne aux patients pour qu'ils puissent, eux, choisir entre un traitement X et Y. Il y a tel risque, mais tel bénéfice, et en fonction de la vie, hein, chaque personne peut décider aussi différemment. Donc, on est beaucoup plus dans une ère de dialogue avec le patient plutôt que d'imposer des choses. Et donc, toute cette nouvelle technologie, on fait partie maintenant de nos informations que l'on a lors d'une consultation préopératoire. Alors, il faut savoir aussi que la digitalisation, on a des reconstructions des pathologies avec des sortes de clones numériques, ce qui nous permet d'être beaucoup plus aussi précis et que les patients se rendent beaucoup mieux compte de leur pathologie, de ce que l'on va faire comme geste opératoire. On arrive et on peut imaginer en effet pratiquement de les faire rentrer dans une intervention virtuelle que l'on pourrait pour leur expliquer, plus qu'aujourd'hui, où encore il y a quelques années, un papier crayon où on fait un petit schéma sur un dossier pour leur expliquer ce que l'on va faire. Là, on peut aussi imaginer que tous ces objets numériques, des clones virtuels où on va pouvoir vraiment proposer de façon virtuelle l'intervention pour que le malade comprenne.
Oui, donc ces technologies peuvent permettre de comprendre plus concrètement les gestes que vous allez faire ou les gestes que vous proposez, si je comprends bien, puisque on a donc maintenant un partage du parcours de soins qui est en train de se dessiner. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est le bloc opératoire du futur, il s'inscrit peut-être dans cette tendance à la médecine personnalisée dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que cette tendance à la médecine personnalisée est favorisée par la technologie ?
Oui, en effet. Alors, j'ai utilisé quelques mots, mais en effet, si on se projette dans l'évolution globale de la médecine, et pas donc que du bloc opératoire, c'est une médecine participative, hein, c'est ce que je vous disais, les échanges avec les patients, beaucoup plus prédictive, Donc, ça veut dire que connaître, c'est pas parce qu'on a la même maladie, hein, la même tumeur à un endroit, que c'est exactement la même maladie d'un patient à un autre. Et donc, du coup, la biologie moléculaire, les données épidémiologiques, donc l'utilisation de données nous permettra probablement d'avoir des stratégies chirurgicales différentes d'un patient à un autre, alors que c'est la même boule au même endroit. Voilà, mais toutes ces données-là, donc là aussi, c'est toute la data science avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui pourront nous dire que probablement pour tel malade, en raison de toutes ces données-là, la meilleure stratégie thérapeutique est celle-ci plutôt que celle-là. Donc, beaucoup plus prédictive, préventive pour aussi savoir s'il y a des facteurs qui pourraient entraîner certaines maladies et donc des suivis, des parcours de soins particuliers. Et puis, personnalisés. En effet, c'est d'associer des traitements en fonction des données du patient, moléculaire, génétique, biologique, mais aussi de tous les outils, donc pour le chirurgien, de prédiction de gestes opératoires sur des modèles virtuels. Aujourd'hui, on imagine très très bien et on peut, avec des outils de reconstruction, de pouvoir faire une chirurgie virtuelle et donc se rendre compte avant les modifications anatomiques, c'est pareil, hein, on a des organes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, donc les variations anatomiques, les conséquences si je coupe là par rapport à, et donc se préparer sur des clones virtuels pour pouvoir, le jour de l'intervention, avoir une chirurgie la plus précise et donc, ce que je disais initialement, un parcours pour le patient meilleur, une optimisation, une réduction des risques. Donc, tout ça, c'est en effet un des objectifs de ces nouvelles technologies. C'est pas faire juste de la technologie pour apporter de la technologie au bloc opératoire. C'est vraiment d'avoir les technologies pour le bien du patient.
Alors, à vous écouter, moi, je dégagerais trois axes donc d'évolution de la chirurgie. La robotisation des blocs opératoires avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Vous parliez d'ingénieurs biomédicaux, d'ingénieurs d'application. Le traitement des données pour faire de la médecine prédictive, ça, ce serait le deuxième axe. Et le troisième, ce serait la simulation, la modélisation du geste qu'on va faire sur le patient et des conséquences qu'il pourrait avoir. Et donc ça pourrait être fait avec de la réalité virtuelle ou autre, si je comprends bien ce que vous me dites, mais peut-être que j'en oublie, Patrick Pessot.
Non, tout à fait. Alors ça, c'est en effet trois axes là qui se dégagent. Il y a d'autres choses. Hein. C'est aussi la gestion des risques. C'est-à-dire, le bloc opératoire est un lieu où il peut y avoir en effet des gestes qui peuvent entraîner des conséquences. Donc toute la gestion du risque et donc l'enregistrement de toutes les interventions pour pouvoir anticiper. Alors, les interventions, le personnel dans la salle, enfin, c'est tout un milieu. Et donc, en fait, on peut aussi imaginer que la connaissance sur de nombreuses interventions qui peuvent être enregistrées, qu'on puisse avoir des aides à la décision, hein, en paire opératoire, avec pareil, hein, des modèles d'intelligence artificielle qui se rendent compte que ce geste pourrait peut-être entraîner une conséquence et donc d'avoir une aide à la décision et une aide à la gestion des risques. Donc ça, c'est aussi un axe à avoir, une sorte, si je veux faire simple, hein, d'alerte qui pourrait nous prédire des zones un peu rouges parce qu'on est en train de faire quelque chose qui a déjà été reconnu connu ou reconnu qui pourrait être dangereux, ou des attitudes dans le bloc opératoire. Hein. Le bloc opératoire, c'est un endroit où on travaille en équipe, les anesthésistes, les infirmières, et voilà. Et donc aussi, il peut y avoir probablement des situations qui peuvent être source d'entraîner une cascade qui peut entraîner des situations à risque. Et donc tout cela peut être des aides qui peuvent apparaître. Mais voilà, ça c'est aussi un autre axe qu'on pense à pouvoir développer grâce à toutes ces nouvelles technologie, innovation technologique.
Mais alors ça implique donc d'avoir une sorte de supervision, de tracking par un appareil qui enregistre le geste du chirurgien. Alors pour le moment, donc, bon, c'est le robot qui assiste le chirurgien, mais dans quelques années, est-ce que du coup la tendance ne va-t-elle pas s'inverser ?
Alors aujourd'hui, les robots que l'on a sur le, c'est vraiment de la télémanipulation, hein. C'est-à-dire que c'est toujours le chirurgien qui fait le geste complètement, mais entre le chirurgien et le malade, il y a ce robot qui nous permet d'avoir des gestes démultipliés, hein. On peut réduire la taille du geste. Je fais un centimètre ma main, mais ça peut être plus précis, des visions 3D, voilà. Mais c'est toujours 100% du chirurgien qui fait un geste qui est aidé grâce aux robots chirurgicaux. L'avenir est de penser à intégrer dans ces robots, qui sont pour moi des ordinateurs qu'on peut mettre entre justement le chirurgien et le malade, toutes ces aides à la décision. Donc ce que je disais, c'est enregistrements de notre chirurgie qu'on aurait pu faire en simulé l'avant, et qu'on puisse l'avoir en cours d'intervention au fur et à mesure pour avoir une sorte de guide pour suivre, des systèmes d'intelligence artificielle qui reconnaissent des structures anatomiques pour nous dire je pense que c'est telle structure, pas telle structure, t'as disséqué, ta dissection elle est correcte à 99%, voilà. Donc toutes ces aides-là vont s'intégrer pour moi au fur et à mesure dans le robot, l'ordinateur que l'on met entre la main du chirurgien et le malade, pour arriver dans un temps encore après, probablement, à certains gestes qu'on pourra automatiser, parce que ils seront pas toute l'intervention, mais certains moments où on a bien tout disséqué, et puis pour couper, on peut appuyer et puis que des choses soient faite automatique. Mais ça, on n'y est pas encore tout à fait. Donc moi, je vois un peu l'évolution comme ça. Après, pour moi, c'est comme dans un cockpit. En effet, il y a la navigation automatique, hein, mais le pilote est toujours là, peut reprendre la main à tout moment. C'est lui le responsable, il peut aller contre. Et donc, le chirurgien sera un chirurgien augmenté, facilité par la technologie, mais restera le maître à bord, et ça sera plus des aides que un inverse, c'est-à-dire que nous on sera plus là et que sera la machine qui fera tout. Donc je pense que nous garderons le dernier mot entre guillemets au bloc opératoire, même si nous serons assistés de plus en plus par des nouvelles technologies.
Merci beaucoup Patrick Pessot, je vous propose de reprendre notre conversation un peu plus tard, car il est l'heure de prendre des nouvelles de cette amie pour laquelle nous nous levons tous les matins ici à l'Atome de Savoir. Il s'agit bien sûr de la science qui a récemment reçu la visite de Jade.
Une fois n'est pas coutume, on va parler de photos dans cette chronique d'actualité scientifique, et toujours pas de photos sur Terre. Enfin, la photo a été prise sur Terre, mais son objet n'y est certainement pas. Le 12 mai dernier, l'Event Horizon Telescope, un réseau de télescopes, a permis la publication d'une image du trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Pour réaliser cette image historique, 8 observatoires ont été reliés par le réseau de l'Event Horizon Telescope. L'EHT a observé le trou noir pendant plusieurs nuits et a collecté des données pendant des heures. Un peu comme lorsqu'on laisse un appareil photo avec une longue durée d'exposition. Enfin que là, il aura fallu des heures d'exposition et 5 ans de travail pour obtenir cette photo. Ce n'est pas la première photo d'un trou noir qui a été prise. En 2019, des astronomes avaient obtenu la photo du trou noir situé dans la galaxie M87. Après l'immensément grand, je vous propose de passer au tout petit, avec une bonne nouvelle pour l'écologie. Des chercheurs de l'université d'Austin, au Texas, ont mis au point une enzyme mutante qui permet de manger et de décomposer le plastique. Alors, elle ne mange pas tous les plastiques, mais bien le polyéthylène téraphthalate, un plastique qui compose la plupart des bouteilles d'eau et des emballages alimentaires. Il ne leur faut que 24 heures pour décomposer le plastique, alors que dans la nature, il ne disparaît qu'au bout de dizaines d'années. Plus que de simplement éliminer le plastique, ce recyclage chimique permet d'obtenir des microparticules qui peuvent être réutilisées pour créer un nouvel objet. et sur ce nouvel objet, l'opération pourrait être renouvelée. Avec la méthode de broyage actuelle, le plastique ne peut être recyclé qu'un certain nombre de fois, un nombre limité. Ici, il s'agit d'un recyclage circulaire beaucoup plus écologique. Ce procédé est quasiment infini. Ce procédé n'est pas encore utilisable à l'échelle industrielle, mais il pourrait l'être d'ici plusieurs années. Et même si cela ne résoudra pas tous les problèmes liés au plastique, le polyéthylène ne composant que 12% des plastiques que nous utilisons, c'est déjà une grande avancée. Et cette première nouvelle s'accompagne forcément d'une deuxième dans cette chronique. Des chercheurs australiens ont réussi à identifier le mécanisme d'action chimique des antidépresseurs sur les douleurs chroniques. Même si on savait depuis les années 1960 que les antidépresseurs agissent aussi sur la douleur, nous n'avions pas encore identifié précisément le mécanisme en jeu. On pourrait désormais envisager la création de médicaments qui agiraient uniquement sur cela avec ce mécanisme. Une nouvelle pas inintéressante pour le thème d'émission de ce soir.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, nous parlons du bloc opératoire du futur jusqu'à 21h avec Patrick Pessot, président de l'Association française de chirurgie. Alors tout à l'heure, nous parlions des promesses technologiques de ce futur bloc opératoire et maintenant, je vous propose de voir comment ça va se concrétiser. Alors pour ça, dans un premier temps, il y a l'aspect judiciaire dont on a encore très peu parlé. L'implication de ces nouvelles technologies et notamment des robots doit-elle être amenée à modifier notre système de responsabilité en cas de problème, Patrick Pessot?
Alors, je vais être très honnête, je n'ai pas de réponse formelle de vous dire oui, ça va modifier ou pas. Je vais vous donner mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'il va y avoir obligatoirement une réflexion sur ce sujet-là. Parce que, en effet, aujourd'hui, hein, on utilise déjà au bloc opératoire des instruments qui peuvent être source de mauvaises fonctions. C'est le chirurgien qui est responsable. Hein. Une pince, une agrafeuse, alors c'est pas de la haute technologie, c'est pas de la robotique, c'est pas du digital, mais en effet, s'il y a une malfonction, nous restons responsables. Donc après, c'est de pousser ces instruments que nous utilisons, ces outils, à des aides à la décision. Le chirurgien, et ce que je vous disais initialement, je pense, restera le commandant de bord, restera le responsable, même si un algorithme lui dit « je pense que tu risques de faire une erreur », bien, la question c'est en effet, s'il ne le suit pas et qu'il y a une erreur, quelle va être sa faute? S'il le suit et que c'est l'algorithme qui s'est planté, ça va être aussi sa faute. Donc, c'est des sujets qui vont nécessairement être à discuter. Je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas, voilà, de vous dire on va plus être responsable ou on va la garder, cette responsabilité partagée, je sais pas, mais c'est une réflexion qu'il faudra avoir, hein. Mais si je reprends aussi le parallèle avec l'aviation, hein, le pilote, c'était le pilote pour l'accident qu'il y avait à Washington, si mes souvenirs sont bons, là où il a fait où il a décidé de faire un amerrissage là, sur la rivière et pas de faire demi-tour entre la tour de contrôle et puis aussi les calculs qui avaient été faits, tout ça lui disait de faire demi-tour et il a décidé de pas faire demi-tour et l'amérissage, voilà. Donc le chirurgien pour moi restera un peu comme le modèle de ce pilote, responsable de suivre ou de ne pas suivre. L'analyse, son analyse sera l'analyse finale. Donc après, gardera une responsabilité. Après, il faut en effet modifier possiblement s'il suit ou s'il ne suit pas des algorithmes, comment ça s'intègre dans ses responsabilités.
Finalement, ce que vous me dites, c'est que ça va modifier les équilibres peut-être plus dans la tête des gens plutôt que dans la réalité, puisque dans la réalité, finalement, le chirurgien restera responsable dans tous les cas.
Pour moi, oui. Il doit le rester pour justement être le garant de suivre ou ne pas suivre une procédure, une aide à la décision, ou quelque chose qui puisse lui faciliter le geste, si c'est des gestes automatiques. Donc, il reste maître à bord de la décision finale, et donc réglementairement, judiciairement, il restera aussi responsable.
Mais alors justement, bon, ça va être le sujet, et d'ailleurs c'est déjà un petit peu le sujet qui déchaîne les passions. Comment préparer les patients à ces changements dans la chirurgie, puisque finalement, ils sont peut-être pas prêts, eux, à recevoir une opération faite de la part d'un chirurgien assisté par des systèmes numériques?
Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une réticence majeure au niveau des patients. Déjà, ce que l'on voit est l'exemple de la chirurgie robotique, hein, qui est aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, pas un robot qui opère à notre place, mais vraiment une télémanipulation. Les patients ne sont pas répulsifs aux nouvelles technologies, voire même se disent, s'il y a des nouvelles technologies, c'est que c'est probablement mieux, et préfèrent se faire opérer à des endroits où il y a un robot, où il y a des nouvelles technologies. Donc, je pense pas qu'il y ait d'emblée des réticence aux nouvelles technologies pour les patients. Le deuxième point, c'est que c'est quand même aussi des modifications qui se font progressivement. Hein. On n'est pas passé du jour au lendemain à un chirurgien qui n'opère plus. Donc, les mentalités vont se faire progressivement. La médecine a toujours évolué. Hein, donc, je ne vois pas pourquoi on se bloquerait sur ces nouvelles technologies. La troisième chose, ou je ne sais plus où j'en suis, mais c'est aussi ce que je disais, on est beaucoup plus dans l'ère du dialogue, du participatif, de la discussion avec les patients. Donc toute l'utilisation, le choix d'une intervention ou pas, le choix d'une technique, les avantages, les inconvénients, les risques, tout ça sont discutés en consultation. Et donc c'est un choix que l'on fera avec les patients, donc il n'y a pas de réticence. Et puis le dernier, j'insiste aussi, c'est pas faire de la technologie pour faire de la technologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas un nouvel outil, puis tiens, comment on pourrait l'utiliser et comment on pourrait l'utiliser en chirurgie. La venue de ces nouvelles technologies doit vraiment être à partir d'un besoin. Des praticiens cherchent des solutions. Il y a une solution technologique qui apporte donc du coup, qui résout donc un problème. Et donc, on est vraiment à chaque fois dans l'amélioration du parcours de soins, du geste. Voilà, donc on est vraiment ces nouvelles technologies-là pour apporter un service médical supérieur aux patients. Donc, ces nouvelles technologies devant être expliquées comme ça aux patients, parce qu'elles ont été conçues pour améliorer le parcours de soins, je ne vois pas de réticence, je vois pas de réticence du côté des patients. C'est sûr que si on veut mettre un nouveau nouvelle technologie, mais qui n'a aucune démonstration de bienfait, c'est le malade, on va lui, voilà, je comprendrais qu'il dise ça sert à quoi. Voilà, mais il faut aussi que le mécanisme des innovations ait un objectif médical et pas d'utilisation pour faire moderne.
Alors oui, la modernité, la technologie, l'innovation, c'est bien beau, on va progresser, mais parfois il y a des inconvénients. Et là, l'inconvénient que je vois depuis ma chaise dans ce studio de radio, c'est que vous risquez d'être dépendant de cette machine et donc dépendant de la maintenance de cette machine. Alors, comment vont évoluer les équipes des hôpitaux pour pouvoir gérer un large parc de machines qui risque, à mon avis, d'être hétéroclite, si j'ai bien compris?
Oui. Alors là, on a évoqué quelques pistes, la robotisation, l'automatisation de gestes, les serveurs avec des données, enfin. En effet, on est sur plusieurs nouvelles technologies, donc probablement l'utilisation aussi, il va falloir qu'on apprenne à les utiliser, il va falloir des aides en salle pour nous aider. Mais après, aujourd'hui, on a des ingénieurs biomédicaux qui sont là pour justement gérer le parc. Incontestablement, c'est un métier qui va nécessiter plus de personnes dans un hôpital pour pouvoir avoir des formations et gérer de multitudes de devices, d'outils. Donc, c'est un métier qui ne peut être qu'en expansion. L'ingénieur biomédical pour gérer les parcs et des assistants en salle ou au moins dans un bloc, parce que peut-être pas dans une salle, mais au quotidien pour faciliter les gestes.
Donc, vous voulez dire aux jeunes qui nous écoutent sur Radio Campus Paris que dans les années à venir, il va y avoir beaucoup de boulot dans le biomédical?
Bah, je pense que c'est un job qui ne peut que nécessiter des vocations pour alimenter nos hôpitaux. Ouais, ouais.
Ouais, ouais. Bon, bah, tant mieux, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Il va y avoir du recrutement. Ouais.
Très bien, merci.
N'hésitez pas.
Et donc, bon, tout ça aussi, c'est bien beau, mais la technologie, l'innovation, ça a un coût, et pas qu'un coût de maintenance, ça a un coût à l'achat. Et pour le patient, pour les hôpitaux, combien ça va coûter cette affaire? Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce que les hôpitaux peuvent se le permettre?
Alors, est-ce qu'ils peuvent se le permettre? La situation actuelle des hôpitaux n'est peut-être pas la meilleure pour dire qu'on peut se le permettre de d'utiliser l'argent comme ça. Mais enfin, ça c'est pareil. Hein, là, on parle technologie au bloc opératoire, mais la médecine fait beaucoup de progrès avec des thérapies géniques, avec de nouvelles molécules anticancéreuses, enfin voilà, donc la médecine, malheureusement, si je peux dire, le coût de la médecine, le coût du soin ne va être que quelque chose qu'il faut envisager qu'en augmentation. Donc l'environnement chirurgical va aussi nécessiter une augmentation du coût des soins. Donc ça, je vais dire, je pense que malheureusement, on ne va pas pouvoir faire autrement. Comme toute technologie, bien au départ, quand il n'y a qu'une seule, un seul fabricant, qu'on est au début, que c'est sûr que le coût est plus important. Et puis quand ça se démocratise, le coût baisse quand il y a des concurrents. Voilà. Donc c'est aussi au départ probablement des investissements qui sont là, mais qui au fil de la technologie vont se réduire, puis après, en effet, il y a une nouvelle technologie qui arrive, puis on arrive sur des cycles comme ça. Mais c'est pas, enfin, voilà, là, le médecin parle, si on a une nouvelle technologie qui permet aux patients d'être opérés dans une meilleure sécurité, mieux, voilà, même si ça coûte de l'argent, on va pas nous fermer les yeux et dire ça n'existe pas. Hein. Donc, les praticiens seront là pour les utiliser, pour le bien des malades. Et puis après, c'est comme tout, la médecine a souvent la fâcheuse tendance de fonctionner en silo et on voit le coût de l'achat d'une technique. Mais si justement, elle est là pour améliorer le geste opératoire, donc diminuer les complications, donc probablement diminuer les durées d'hospitalisation, diminuer les complications, donc moins de réintervention. Donc après, il faut voir aussi le coût global dans une prise en charge. Une nouvelle technologie peut avoir un coût d'investissement, mais sur d'autres lignes budgétaires, j'allais dire, est économique. Et donc voilà, donc ça c'est une façon qu'on n'a pas trop de calculer. L'hôpital voit son investissement, mais après il faut le regarder plutôt au niveau de la société. Et si c'est mieux pour le malade, c'est peut-être aussi mieux sur le plan économique global de notre sécurité sociale.
Alors certes, mieux pour le malade, je le conçois, mais peut-être aussi que les coûts élevés des machines risquent d'engendrer une concentration technologique médicale dans les grandes villes au détriment des campagnes. Voilà, les inégalités territoriales en termes de santé risquent peut-être de s'accentuer, Patrick Pessot.
Alors ça, la problématique globale des interventions, des centres permettant alors je parle juste de la chirurgie, hein, mais des centres permettant la chirurgie, il faut vraiment avoir une réflexion, là c'est pareil, en termes territorial, d'un maillage territorial. On ne peut plus concevoir justement la chirurgie où il y avait juste un ciseau et une pince et qui pouvait être faite partout. Les technologies évoluent, les prises en charge se complexifient. Et donc, au niveau d'un territoire, il va falloir que l'on réfléchisse probablement à une hiérarchisation des plateaux techniques et de ne pas faire tout n'importe où. Ce qui ne veut pas dire de déséquilibrer et de rendre inaccessibles certaines personnes sur un territoire de technologie, mais il faut réorganiser, avoir une fluidité entre les centres, entre les équipes, entre la ville et l'hôpital. Donc, il faut travailler sur l'innovation organisationnelle, c'est une autre organisation, pour que des plateaux techniques innovants, high-tech, si je puis dire, puissent être au service, pas juste d'une ville, hein, par exemple Strasbourg, moi, voilà, mais d'un territoire, et qu'on ait un maillage territorial et une organisation pour que les personnes autour puissent avoir accès à des technologies innovantes. La chirurgie, c'est pas qu'une question de chirurgien, de geste. On sait que plus on en fait, mieux on le fait. Donc il y a aussi des notions de quota, j'aime pas ce terme, mais de nombre de gestes faits pour que l'on puisse être dans des centres dans sécurité. Et puis il y a aussi tout ce qu'il y a autour du chirurgien, hein, c'est-à-dire que la réanimation, des radiologues qui peuvent intervenir, donc les équipes doivent être complètes pour une prise en charge chirurgicale. Et il faut probablement imaginer des têtes de pont avec des plateaux techniques où on puisse faire des gestes, mais en relation avec tout le territoire pour pouvoir que toute la population en bénéficie. Mais on ne va pas équiper tous les hôpitaux de France avec un robot, un robot, pas celui qu'on a aujourd'hui, mais les futurs robots.
Bien sûr. Donc, il y a aussi de l'avenir dans l'aménagement du territoire.
Ça, je pense que ça. Bon. Actuellement, c'est, je pense, l'enjeu principal de nos futurs gouvernements sur la santé, c'est comment on articule les différents acteurs qui sont là pour qu'ils puissent travailler beaucoup plus en complémentarité, en coordination qu'en compétition. Voilà. Ça, c'était un avis en dehors du bloc opératoire que je me permets.
Je vous remercie beaucoup, Patrick Pessot. Je rappelle que vous êtes chef du service chirurgie digestive au CHU de Strasbourg et président de l'Association française de chirurgie. Mais restez avec nous quelques instants encore, parce qu'il est temps pour moi de vous présenter l'ami Simon, un esprit savant dans un corps de philosophe. Alors Simon, de quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Eh bien, après 5 chroniques sur différents penseurs en philosophie des sciences, je me suis dit que c'était le bon moment pour prendre un peu de recul sur toutes ces théories et essayer d'en dégager une vision d'ensemble. Le problème auquel nous avons essayé de répondre au cours de cette année, c'est bien comment progresse la science. Mais j'ai souhaité aborder cette vaste question sous un angle spécifique, celui d'un débat qui a toujours agité la philosophie des sciences, le débat entre continuité et rupture, ou encore continuisme et discontinuisme. En clair, les différents auteurs que nous avons abordés répondaient à la question du progrès de la science en nous disant « soit la science progresse de façon continue, quasi linéaire, une évolution qui est donc graduelle, soit la science progresse par rupture, par moment de crise qui change tout, qui change la façon dont la science est faite. »
Et une approche est-elle meilleure que l'autre ?
A priori, comme ça, aucune approche n'a plus raison. Il faut voir le détail des arguments. Et justement, voyons-le. L'approche continuiste est la plus intuitive, la plus proche de ce que l'on s'imagine être le travail scientifique. Elle postule en effet que le progrès scientifique est cumulatif. Le travail des scientifiques d'hier permet aux scientifiques d'aujourd'hui de faire des découvertes. Les découvertes d'hier sont précisées, renforcées, améliorées par les découvertes d'aujourd'hui. Et ces dernières ne sont pas en contradiction avec les premières. En clair, lorsqu'Einstein présente sa théorie de la relativité générale, ça ne veut pas dire que la loi de l'attraction universelle de Newton était fausse. Ça veut dire qu'il faut préciser dans quel contexte elle s'applique. Cette approche continuiste, c'est celle par exemple de Stephen Toulmin, qui critique Thomas Kuhn en disant que la science ne progresse pas par révolution, mais par évolution. Les concepts scientifiques ne sont pas bouleversés à chaque découverte, ils sont simplement précisés, améliorés et parfois remplacés par des concepts meilleurs.
Et qu'est-ce qu'on peut critiquer dans cette approche ?
Le continuisme présente quelques problèmes. Même s'il faut admettre qu'il n'y a jamais un moment M de la découverte qui chamboule tout, ou du changement absolu de pratiques scientifiques, des révolutions scientifiques, il y en a eu. Et c'était de véritables bouleversements de la manière dont on pensait. L'héliocentrisme de Copernic est une rupture majeure avec la pensée qui précédait, même s'il a eu des précurseurs. La notion de paradigme de Thomas Kuhn, que nous avons abordée dans l'une de nos chroniques, rend bien compte de ces changements possibles. Au sein d'une science particulière, et parfois même d'une branche de la science, il y a des paradigmes dominants, c'est-à-dire des théories qui se sont figées en présupposés de toute pratique scientifique. Pendant longtemps, en astronomie, le paradigme c'était le géocentrisme, la Terre au centre de l'univers. En mathématiques, le calcul différentiel fait entrer la discipline au XVIIe et XVIIIe siècle dans une nouvelle ère. Et plus récemment, la philosophe féministe Donna Haraway a montré l'existence d'un biais au sein de la primatologie, à savoir la prédominance de la théorie d'un mâle dominant et d'une femelle passive chez les primates, théorie qui a été pourtant largement remise en cause. Tous ces changements ne sont pas seulement des évolutions de concepts, ce sont des ruptures majeures.
Et donc le discontinuisme a raison ?
Donc le discontinuisme a de solides arguments. Pendant les émissions précédentes, nous avons abordé de nombreux philosophes qui défendent, de façon diverse, l'idée d'une rupture. Bachelard et la rupture épistémologique, Popper et la falsifiabilité, Kuhn et les paradigmes, je vous renvoie à toutes ces émissions de l'Atome de Savoir pour en découvrir davantage, mais il y a peut-être une chose qui manque au discontinuisme, qui manque aussi d'ailleurs au continuisme. Tous les deux semblent postuler que le progrès de la science se fait seulement dans la science. Au fond, aucun des deux ne discute des facteurs externes à la science. Ils parlent seulement d'évolution d'idées et de concepts. Pour le continuisme, les concepts se suivent, se précisent, s'accumulent. Pour le discontinuisme, les concepts s'opposent, s'affrontent, sont en rupture les uns avec les autres. Mais on est encore dans les deux cas, dans la sphère des concepts. C'est le reproche que fera Pierre Bourdieu à tous ceux qui ne s'intéressent pas à la sociologie des sciences. Pour lui, le progrès scientifique, continu ou discontinu, n'est pas seulement une affaire d'idées scientifiques, de découvertes, d'expériences. C'est aussi une affaire de société, d'hommes et de femmes, les scientifiques, inclus et impliqués dans une certaine société, à une époque donnée et traversés par ses valeurs.
Mais alors Simon, est-ce qu'il y a une réponse claire à ta question ? Comment progresse la science ?
Ce serait trop simple. Si on avait la réponse, ça nous aurait évité bien des débats. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que dans cette confrontation entre le continuisme et le discontinuisme, on ne peut pas négliger les conditions concrètes de production des théories scientifiques. Or, étudier ces conditions revient à étudier l'environnement social et moral dans lequel évoluent les scientifiques. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra commencer à se rapprocher d'une réponse plus clair à ce problème qui nous agite depuis tant de siècles, le progrès de nos connaissances.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir écoutés. Sachez que vous pouvez nous réécouter à tout moment sur radiocampusparis.org ou sur Spotify. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Toute l'équipe de l'Atome de Savoir vous salue, Jade Adil, Johanna Blin, Simon Veil, Vadim Yelkin et moi-même. On se retrouve le 16 juin à 19h pour une émission spéciale de l'Atome de Savoir. On sera ensemble 2 heures pour parler d'innovation pour sauver la planète. Alors à bientôt sur Radio Campus Paris. En attendant, restez curieux et portez-vous bien.